Des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Academy.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Marine Digabel.
Bonjour, nous accueillons aujourd'hui Michel Lemoyle pour évoquer son parcours. Michel Lemoyle, vous avez été élu membre de l'Académie des sciences le 29 novembre 2005. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes neuropsychiatre de formation, mais vous n'êtes pas un psychiatre comme les autres. D'abord, vous êtes le seul représentant de la psychiatrie à l'Académie des sciences. C'est une remarque qui est peut-être anecdotique, mais pas tant que ça, on aura l'occasion d'en reparler. Ensuite, vous pratiquez la psychopathologie expérimentale, ce qui signifie que vous travaillez sur des animaux, alors que la psychiatrie s'intéresse habituellement davantage aux hommes, donc on verra pourquoi. Enfin, vous avez créé le laboratoire INSERM Psychobiologie des comportements adaptatifs. C'est une discipline que vous avez instaurée en France et on verra pourquoi le terme en lui-même est important. Enfin, je voudrais citer, avant de commencer l'émission, un ouvrage que vous avez publié avec George Koub aux éditions Academic Press. Il s'agit de l'ouvrage « Neurobiology of Addiction » et on aura l'occasion de voir en quoi il peut résumer un peu votre démarche de chercheur. Alors, première question, revenons peut-être aux origines de votre parcours. Quelle formation initiale avez-vous eue et en quoi ça a influencé la suite de votre carrière ?
Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette introduction parce que vous avez pratiquement tout dit, en fait. En rappelant tout à l'heure, d'ailleurs, que j'avais été élu à l'Académie des sciences et que dans cette académie, le fait d'avoir été, d'être de formation psychiatrique avait compté puisqu'il n'y avait pas, sa discipline n'était pas représentée. Mais encore fallait-il qu'effectivement que psychiatrie et sciences, l'Académie des sciences puisse se joindre et c'est un peu effectivement ce qui me caractérise, c'est-à-dire d'avoir fait de la recherche en étant psychiatre. Ce qui n'est pas, ce qui n'était pas à l'époque encore moins, courant. Alors, cette formation initiale, puisque c'est la question que vous me posez, vous allez voir, elle est assez particulière, je veux dire, c'est même étrange par certains côtés. Bon, comme mon nom l'indique, je suis breton, d'atavisme marin, etc. Donc, je voulais faire une carrière dans ces horizons. Bon, ça n'a pas tout à fait marché en raison de problèmes de santé. Donc, je me suis orienté vers la médecine et pour marier tout ça, j'ai fait de la médecine navale. Donc je suis arrivé, j'ai passé un concours en deuxième année de formation médicale et je suis arrivé à Bordeaux où se trouvait l'École nationale de la santé de la marine et de la France d'outre-mer. Et c'est une école extrêmement importante à l'époque, qui était une école d'ailleurs qui était prestigieuse sur un siècle et demi et qui fournissait donc en réalité tous les cadres médicaux de la marine, mais non seulement de la marine, mais de tout ce qu'on appelait à l'époque, dans les années encore 50, la France d'outre-mer, c'était important. Et en plus, fournissait les médecins militaires, et nous étions particulièrement guerroyants à cette époque. Donc j'arrive à santé navale, je dis ça parce que vous allez voir tout à l'heure, ça aura une petite incidence dans l'orientation de ma carrière. Bon, alors je commence mes études médicales à la faculté de médecine de Bordeaux, tout en étant à l'école, un peu, si vous voulez, comme les gens qui sont à l'école normale supérieure et puis qui vont suivre leur cours à l'université. Donc, des formations parallèles, en quelque sorte, et complémentaires. Et au cours de mes stages d'externe, à l'époque, je rencontre ce qui n'était pas la psychiatrie dans le domaine universitaire. Et ça, c'est une caractéristique française très curieuse. C'est-à-dire que la psychiatrie était dans les hôpitaux psychiatriques pratiqués par des médecins dits d'asile, des médecins de psychiatrie, c'était un corps spécial qui était très important. Et au niveau des universités, c'était de la neuropsychiatrie, c'est-à-dire que la spécialité était de la neuropsychiatrie. Donc j'arrive en neuropsychiatrie à un moment donné, au cours de mes études, il fallait faire ce stage. Et je rencontre là un homme qui m'aura marqué toute ma vie. Il s'appelait le professeur Delmas Marsalet, qui est décédé depuis. C'est une espèce de savant cousinus. C'est-à-dire, dans le domaine français, il était caractérisé comme un demi-fou, dans la mesure où c'était un homme qui aurait pu faire n'importe quelle agrégation, qui avait fait agrégation de neuropsychiatrie, et qui passait en réalité une partie de sa vie à la faculté de médecine à faire de l'expérimentation en physiologie nerveuse et surtout musculaire. C'était un grand savant en physiologie musculaire, dans les maladies musculaires. Et je ne sais pourquoi, je me suis un peu attaché à cet homme et je le suivais à la fois dans ses explorations de laboratoire, n'est-ce pas ? Et il venait juste de créer d'ailleurs un grand centre de clinique à Bordeaux et le sous-sol était dévolu à des animaleries. C'était une chose absolument étonnante en France à l'époque.
Bien. Pourquoi ? Parce qu'on ne menait pas d'expérience sur les animaux ?
Non, je veux dire, on était cliniciens. C'est une bonne question, mais effectivement, c'est assez difficile peut-être, dans le contexte actuel, de s'imaginer ce que c'était dans les années 50, la médecine. D'abord la médecine, mais encore plus la recherche médicale en France. C'est-à-dire, on était recrutés, enfin les médecins des hôpitaux, les médecins professeurs, étaient recrutés sur leurs talents et leurs connaissances cliniques. Mais on ne recrutait pas en raison, je dirais, ce qu'on appellerait maintenant un DEA ou une thèse ou quoi que ce soit. Non, on était de formation clinique, on était particulièrement compétents et parmi les plus brillants dans ce domaine. Donc il n'était pas question. Et faire de la recherche dans quoi ? Je veux dire, il n'y avait pas, dans les années 50, même en neurologie, et encore moins en psychiatrie, je dirais, le thème de recherche ou même la notion de laboratoire attaché à un service médical était une chose qui n'existait pas. Ça commençait à exister dans le domaine de la cardiologie et dans le domaine de l'immunologie, etc. Mais en neuropsychiatrie, il n'était pas question. Nulle part en France. Donc, cet homme, lui, était un petit peu particulier. Et j'ai rencontré, alors, à l'école de santé navale, un deuxième personnage, mais ça, c'était à la fin des années 50, avant de quitter l'école, un personnage que tout le monde connaît en France, qui a eu le prix Lasker, qui est, je dirais, le sous-Nobel, n'est-ce pas ? Et qui est l'homme qui avait, je dirais, entre guillemets, découvert les neuroleptiques, c'est-à-dire découvert les substances psychotropes. C'était un médecin de marine, chirurgien de marine, et qui, sur les champs de bataille en Indochine, où il opérait, n'est-ce pas ? Il opérait soldats gravement atteints, avait inventé deux choses, avait inventé l'hibernation artificielle et pour amener dans des conditions correctes, je dirais, non stressantes, les malades du champ de bataille à l'antenne chirurgicale. Donc ils étaient, leur système neurovégétatif et leur conscience étaient, je dirais, apaisés en quelque sorte par ce qu'il appelait les cocktails lithiques et de la glace autour. Donc ils étaient en hibernation artificielle. Et la deuxième chose, c'est que en travaillant sur les substances qui permettaient d'engager chimiquement cette hibernation, il avait observé que l'un de ces produits, qui était un antihistaminique, ou plutôt un dérivé des antihistaminiques, fabriqué par la firme Specia à l'époque, calmait naturellement les gens et les rendait, c'est-à-dire, ataraxiques, c'est-à-dire qu'ils étaient un petit peu déconnectés de la réalité, quel que soit d'ailleurs l'état physique dans lequel il se trouvait. C'est donc une condition tout à fait apaisante, le sujet était encore conscient, mais un peu détaché. Et il avait là-dessus poursuivi un petit peu ses recherches, et sur le champ de bataille, si je puis dire, car c'était un homme absolument extraordinaire de ce point de vue-là, un observateur, un expérimentateur étonnant, et il avait finalement publié un article dans la presse médicale qui allait être l'article fondateur de toute la psychopharmacologie moderne, où il assurait que ces médicaments, ces molécules, auraient un avantage à être essayés en psychiatrie.
D'un côté, vous expliquez qu'à l'époque, la psychiatrie était essentiellement, voire exclusivement clinique. En même temps, on sent chez vous, dès le départ, intérêt pour les travaux de recherche. Comment est-ce que vous avez réussi à combler ce fossé ?
En fait, c'est ça. En fait, j'étais peut-être j'étais d'ailleurs un peu un cas, parce que dans le milieu, j'étais toujours un petit peu... Pour vous donner juste une parenthèse, dans la clinique neuropsychiatrique, dans ce petit hôpital qu'il avait créé, d'Elmas Marsalet, j'étais toujours en train d'essayer d'implanter, si je puis dire, des nouvelles méthodes, des nouvelles techniques. C'est par exemple moi à Bordeaux, qui ai implanté à Bordeaux toutes les techniques de relaxation, ce qu'on appelait à l'époque le training autogène. Enfin, toutes ces techniques-là, j'avais réussi même à squatter des pièces et des pièces. Et ça avait d'ailleurs un succès fou parce que il y avait des malades qui venaient de partout. Puis on change. Oui, c'était toujours en train de. C'est vrai, j'étais toujours un petit peu en marge, en quelque sorte, de la voie classique, quoi. Bien, alors là, j'en étais là, m'apprêtant peut-être à faire une carrière classique, mais en même temps, je vous dis un pied dedans, un pied dehors, et puis je tombe malade, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de passer 3 ans en sanatorium, si vous voulez, parce qu'après un stage d'externe en pneumophysiologie, il faut rappeler que quand même, dans les années 50, la pneumophysiologie était de loin le plus grand service médical de toutes les universités médicales, dans toutes les universités, c'était des hôpitaux entiers, n'est-ce pas ? Il ne faut pas l'oublier. Je fais ça, donc, et puis pour m'occuper, je me dis, qu'est-ce que je vais faire ? Je ne peux plus continuer ma médecine. Certes, j'étais interne dans le sanatorium, mais enfin bon, je n'étais pas... Je me mets à faire ce qu'on appelle maintenant des maîtrises, une maîtrise de philo-psychologie, de philosophie et psychologie, un mélange des deux, parce qu'on faisait des maîtrises libres à l'époque, si on le voulait, si on ne s'orientait pas vers l'enseignement, et une maîtrise de sciences, de biologie. Donc, si vous voulez, je commence là, à Grenoble, à faire ça. Et je me prends au jeu, je trouve ça intéressant, je me dis, voyons, il faut se cultiver, etc., etc. Par la maîtrise de psychologie et philosophie, je me mets à réfléchir et à lire des choses qui, d'ailleurs, très souvent me croisaient la psychiatrie, il faut bien le dire. Il y avait à l'époque, dans ces cursus, beaucoup de psychopathologie, hein, les philosophes s'y intéressaient, les psychologues encore plus. Et en biologie, je voyais un laboratoire, hein, des laboratoires avec des gens qui cherchaient avec sur les thèmes de l'époque, avec les moyens de l'époque, etc. Encore que, comme vous pouvez l'imaginer, la biologie moléculaire commençait à naître aussi, la biologie cellulaire commençait à naître. Donc il y avait un ensemble de facteurs qui faisaient que la recherche démarrait très fort dans les laboratoires de biologie. Bon, je me forme et je reviens donc à Bordeaux, je continue cette formation. Puis je me dis, voyons, qu'est-ce que je fais ? D'abord j'arrive et puis, il faut quand même le dire, ce caractère un petit peu exogène avec cette formation exogène faisait que je devenais là le petit chien, je dirais, pas conforme à la tribu et que on savait pas trop que faire de moi parce que manifestement j'avais pas l'envie de faire que de la clinique, je voulais aussi faire de la clinique et de la recherche sur ce qui m'intéressait, c'est-à-dire grosso modo les maladies qu'on appelait mentales à l'époque, la psychiatrie donc, et bon, on ne savait pas. Donc il y avait cette coupure absolument extraordinaire à l'époque entre, comme on le disait tout à l'heure, la recherche et la clinique. Et pour faire de la recherche, il fallait aller à la faculté des sciences, si je puis dire. Vous voyez ? Donc il fallait aller à la faculté des sciences. Je retombais donc dans un système d'exclusion, en quelque sorte, sans le vouloir, alors que j'aurais voulu faire ça dans la faculté de médecine, etc., etc. Non, il fallait que j'aille ailleurs pour faire de la recherche.
Nous retrouvons Michel Lemoyle qui évoque avec nous son parcours. Alors, on en était au fossé entre la clinique en psychiatrie et la recherche en sciences. Donc, comment vous avez réussi à intégrer tout ça ?
Bon, il y avait cette séparation, n'est-ce pas, qui perdure jusqu'à la fin des années 60 à peu près. Nous nous trouvons donc là, grosso modo, au milieu des années 60. Et par hasard, là encore, en lisant, en écoutant et en discutant avec des collègues et rencontrant une fois de plus sur mon parcours de clinicien et d'ex-marin Labori dans un congrès, un petit colloque en fait qui se passait à Bordeaux, et il me dit, tu sais, c'est formidable ce qui se passe actuellement. Les Suédois viennent de découvrir dans le cerveau des neurones qui sécrètent des produits chimiques. Et déjà, on se demande si ces produits chimiques ne sont pas les cibles, les impacts des substances psychotropes qu'on utilise en psychiatrie. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la révolution que cela a amené, parce que 1954, découverte donc des premiers psychotropes, substances qui permettaient de traiter ô combien les maladies mentales, surtout les psychoses. 10 ans après, on découvre dans le cerveau des molécules, ou plutôt des neurones sur lesquels pourraient agir ou devaient agir ces substances. Donc, par une espèce de... D'ailleurs, ce n'est pas une espèce, on peut dire que c'est par un syllogisme, qui a été d'ailleurs dangereux et qui nous a amené à bien des catastrophes, mais qui était le syllogisme de l'époque, on se disait, ah, les médicaments traitent les maladies mentales, ces médicaments agissent, semble-t-il, sur des neurones dans le système nerveux qu'on appelle les neurones aminergiques, les neurones dopaminergiques, noradrénergiques, sérotoniniens, mais surtout les neurones dopaminergiques. Donc, les maladies mentales résultent de l'altération de, ou de la maladie, en quelque sorte, de l'atteinte de ces neurones dopaminergiques. Vous voyez ? Donc, je prends ça au vol, si je puis dire, et je me dis, bon, si je dois faire de la recherche, il vaudrait mieux que je m'intéresse à ces neurones dopaminergiques. Alors, c'est là encore une fois où l'on retrouve la difficulté qu'il y avait à l'époque à faire un choix de ce type. J'avais une idée de recherche, je ne savais d'ailleurs pas du tout comment l'entreprendre, ni de quelle manière, avec quel sous, quoi que ce soit. Et ça ne pouvait pas se faire en faculté de médecine, où il n'y avait pas de laboratoire ni de recherche, etc. Et il y avait par contre, à la faculté des sciences, des gens qui travaillaient sur le système nerveux, ou à la faculté de médecine aussi, mais dans des voies différentes, sur le système nerveux. Donc, il fallait donc trouver un laboratoire qui me permette de tester ces hypothèses, donc sur l'animal vivant, libre de ses mouvements, etc., de faire une espèce de petite clinique de l'animal à partir de la recherche sur ces neurones. Et, mais il n'y en avait pas. Je veux dire, les gens qui travaillaient ne connaissaient pas ça, ça ne les intéressait pas. Alors j'étais quand même accueilli dans un laboratoire qui s'appelait un laboratoire de psychophysiologie, ça existait à l'époque. C'était un monsieur très bien qui faisait des recherches sur le conditionnement pavlovien, provisionnement opérant, et qui regardait le système nerveux par où ça se faisait, qui étudiait la mémoire se faisant, etc., etc. Puis je lui dis, monsieur, moi je voudrais bien travailler là-dessus. Il me dit, bon, moi je veux bien, bon, écoutez, bon, voilà, vous avez une petite pièce, là, vous avez des appareils, bon, si vous, j'ai de l'argent, si vous voulez, etc., etc. Il était d'ailleurs intéressé par mes idées, il n'y a aucun problème. Et j'ai commencé donc à faire mes recherches tout seul. Pratiquement, c'est-à-dire, je faisais de la recherche jusqu'au jour où il m'a dit, écoutez, le moelle, quand même, bon, vous êtes là, vous êtes un petit peu amateur, vous arrivez de temps en temps l'après-midi, parce que le matin, j'étais à l'hôpital. Si vous voulez faire de la recherche, bon, il faut quand même plonger dans la recherche. C'est-à-dire, vous ne le ferez pas 3-4 heures par jour, de temps en temps, etc. Et il faut vraiment peut-être vous le mettre dans la tête qu'il faudrait faire une thèse. Alors, je ne savais pas ce que c'était qu'une thèse de science. À l'époque, une thèse de science, c'était 10 à 12 ans. N'est-ce pas ? C'est ce qu'on appelait les thèses d'État. Il n'y avait pas de thèse de troisième cycle à l'époque. C'était les thèses d'État. Donc, c'était des grosses thèses. C'était les grosses thèses, quoi. En fait, il y en avait deux, une thèse complémentaire et une thèse principale. Mais enfin, c'était des choses qu'on menait sur dizaines d'années. C'est là où j'ai franchi le pas, en quelque sorte. Il m'a dit, écoutez, si vous voulez faire une thèse, je vous garde. Vous ferez votre thèse, mais il faut que vous fassiez à plein temps, parce que, ou du moins à trois quarts temps, parce que vous n'y arriverez pas autrement, surtout que j'étais vieux. J'étais un vieux chercheur. Il faut quand même imaginer qu'actuellement, on entre dans la recherche à 22, 23 ans, ou même 20 ans. À l'époque, moi, j'en avais 35. Donc, c'était bizarre, quoi. 30, 35, c'était vrai. Alors, je franchis le pas. Il me dit, écoutez, j'ai un poste d'assistant, là, si vous voulez, vous serez payé. Donc, c'était pas grand-chose. C'était beaucoup moins que ce que j'avais à l'hôpital. Et comme j'avais créé, par ailleurs, des centres de neuropsychiatrie infantile dans la ville de Bordeaux, qui d'ailleurs existe toujours, des choses tout à fait nouvelles qu'il y avait à l'époque. C'était la grande époque de la psychiatrie infantile. Hein. Et c'est l'époque d'ailleurs assez curieuse, parce que les médicaments permettaient de libérer les malades et les chasser des hôpitaux psychiatriques. Et inversement, tout ce qui était au niveau de l'infanto-juvénile, on les mettait dans des centres. Il faut peut-être les cadrer, mais enfin, c'était les grandes époques des fugues, des vols, des machins. C'était une psychiatrie infantile qui n'existe plus maintenant. Bon, j'avais d'ailleurs des jeunes qui avaient tué, etc. Ils venaient de toute la France et j'avais créé un centre pour ça. Et donc, je dirais à Cartan, je m'occupais de ça et j'avais donc un complément de salaire, parce que ce n'était pas évidemment très gros que ce salaire d'assistant. Voilà, donc je me suis installé et je commence une thèse dans le domaine des amines biogènes. Alors, c'est là, si vous voulez, qu'à travers la thèse, j'organise en quelque sorte ce qui allait être ma carrière de chercheur. Parce que comme la thèse était longue, on pouvait devenir maître de conférence, maître assistant à l'époque, tout en étant encore thésard, parce que c'était comme ça, quoi, si on avait publié quelques articles. Mais il fallait évidemment bien cadrer un thème de recherche sur le long terme. Hein. Et ça, ça m'a aidé, en fait, cette discipline, parce qu'il a fallu que non seulement que je choisisse ma carrière, mais aussi que je choisisse mon orientation de recherche. Alors, c'était difficile, parce que vous imaginez que j'étais venu de l'homme, ayant en tête les pathologies mentales, me disant, voyons, ces pathologies mentales sont peut-être dues au dérèglement de certains neurones dans le système nerveux central. C'était un simplisme, vous ne pouvez pas imaginer, mais enfin bon, on pensait comme ça à l'époque. Et puis, j'avais un rat devant moi. Or, en psychiatrie, le diagnostic se fait par la parole. Il y a l'observation comportementale, et ça j'ai toujours été d'ailleurs dans ce domaine, je m'opposais souvent à mes collègues en psychiatrie, parce que je prenais l'observation comportementale qui apprenait autant que ce que disait le malade. Enfin,
c'est-à-dire d'observer les gestes
absolument.
Des gens,
les
la
gestes,
façon dont ils
exactement.
Se comportent
ceux qui
dans
mangent,
leur
qui ne mangent pas, etc., etc. S'ils se lavent, s'ils ne se lavent pas. Ces petites choses-là étaient complètement délaissées dans les cliniques universitaires, pas à l'hôpital psychiatrique. Dans les cliniques. Pourquoi ? Parce que les malades souvent passaient vite, restaient là 15 jours, 3 semaines avant d'aller dans les hôpitaux psychiatriques. Donc, mais bon, je passais du temps avec mes malades pour les observer et regarder un peu comment ça se passait. Et j'avais là un rat qui, lui, bon, on peut observer, mais il ne parle pas. Donc il fallait inventer des manières, je dirais, d'expression de l'animal, c'est-à-dire que son comportement soit une espèce de langage d'une souffrance ou d'une maladie ou quelque chose. Donc ça, c'était la première chose. Puis je me suis rendu compte d'une deuxième chose, c'est que il n'y a pas de psychiatrie animale, pratiquement pas. Il y en a une, les vétérinaires en connaissent, il y a bien des chiens déprimés, il y a bien des machins, etc. Mais enfin bon, disons que ce n'est pas une psychiatrie au sens classique du terme.
Parce qu'on ne retrouve pas les mêmes pathologies.
Non, l'animal ne développe pas naturellement de psychose. L'animal ne développe pas naturellement de pathologie, si vous voulez. Il a des règlements comportementaux, mais je veux dire, ce n'est pas la même chose. Donc, en réalité, je me mettais dans la tête de créer une pathologie, ou du moins des maladies, chez un animal qui ne s'exprimait pas et qui, en quelque sorte, ne pouvait en aucun cas répondre à la clinique humaine. Alors là, j'ai eu un moment de dépression, si je puis dire, réellement. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais, quoi ? Tu es à côté de la plaque, d'accord ? Alors, j'ai quand même persévéré en posant le problème, c'est là où on va peut-être aborder mes thèmes de recherche, en posant le problème de manière un peu différente. Je me suis dit, voyons, Claude Bernard, le grand Claude Bernard que je lisais à l'époque, nous disait, il a écrit, notamment dans ce fameux livre qu'il avait rédigé quelques moments avant sa mort, s'étant retiré là, dans sa Bourgogne natale, et très malade, il avait fait d'un seul trait, sans référence ni rien, il avait ce livre qui a fait le tour du monde et qui est toujours édité, qui est toujours lu, qui s'appelle « Introduction à la médecine expérimentale ». Il nous disait, Claude Bernard, que pour bien comprendre la pathologie, il faut bien comprendre la physiologie. Donc, en quelque sorte, son idée, qui est fausse à mon avis d'ailleurs, c'est notre objet de discussion intéressant, c'est que la pathologie et la physiologie, c'est-à-dire le normal et le pathologique, se renvoient l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, si vous prenez une pièce, Le côté pile, le côté face, vous avez d'un côté la physiologie et de l'autre côté la pathologie. Et qu'en quelque sorte, et ça c'était une erreur de Claude Bernard, mais c'était quelque chose qui quand même était très admis dans le milieu de la médecine, c'est que quand on était guéri, on recouvrait en quelque sorte une espèce d'innocence antérieure, c'est-à-dire on revenait vers la physiologie. D'accord ? Donc c'était une manière de dire que la physiologie était le pivot, en quelque sorte. Pour bien comprendre la pathologie, il fallait d'abord avoir de bonnes connaissances de physiologie. D'ailleurs, le terme souvent employé par les anglo-saxons et en France, qui s'appelle la physiopathologie, est cette façon de regarder l'organe d'une manière pathologique, mais en se référant à la physiologie.
À la physiologie, oui, donc à l'état normal.
À l'état normal, parce qu'on pense toujours que la guérison, de toute manière, reviendra. C'est un retour vers l'état normal.
Alors apparemment, en psychiatrie, ce n'est pas le cas. La guérison n'est pas un retour vers l'état normal.
Oui, ce n'était pas un retour à l'état normal, mais quand on avait des médicaments, et qu'on voyait, malgré tout, des déprimés, quand on voyait des maniaques, des gens atteints de psychose maniaco-dépressive, qui dans leurs états aigus, soit de mélancolie, soit état maniaque, car là ce sont des états psychotiques, n'est-ce pas, devenaient, je dirais, presque normaux après des cures de lithium, parce que le lithium était arrivé en ces moments-là aussi, ou après certains neuroleptiques, quand on voyait certains schizophrènes qui étaient là depuis 30 ou 40 ans dans l'hôpital, qu'on faisait sortir dans un état que l'on pensait normal, mais qui au moins, je disais, reprenait contact avec un réel, discutait avec les infirmières, les médecins, et finalement finissait par reconnaître leur famille et retrouver, entre guillemets, une vie paranormale à l'extérieur sans être dangereux pour eux-mêmes ou pour la société, on se disait, on revient quand même vers un état normal. Vous voyez ? Donc il y avait cette idée que le médicament allait changer en quelque sorte la biochimie cérébrale dans le sens d'une normalité. La preuve, c'est que le sujet recouvrait certaines attitudes entre guillemets normales. Donc voilà, devant tout ça, je me suis dit, bon, allons-y lentement et commençons par essayer de comprendre quel est le rôle de ces neurones aminergiques sur lesquels agissaient des médicaments.
Il est là, il est venu, le chevalier des mots, celui qui s'est battu sans peur et sans reproche pour que vive le bon français, qui nous a fait aimer la lecture et même l'orthographe, vous l'aurez reconnu, c'est Bernard Pivot sur Canal Académie. Et quand il parle du vin, son vocabulaire devient gouléant, on croirait qu'il déguste les mots français. C'est un régal, c'est Bernard Pivot sur Canal Académie.
Nous retrouvons Michel Lemoyle pour évoquer son parcours dans lequel les neurones dopaminergiques ont beaucoup compté. Alors, entrons dans le vif du sujet.
Cette façon de dire, soit des neurones dopaminergiques dont on avait les Suédois et bien d'autres après, mais les Suédois ont fait un travail, je dirais, extraordinaire. D'ailleurs, ça a été l'objet de prix Nobel ces dernières années. On a récompensé par les prix Nobel, notamment Carlson, qui avait été à l'origine de ces découvertes. Soit ces neurones, on les voyait, puisqu'on pouvait les identifier histochimiquement, c'était de la dopamine, avec des colorants spécifiques, si je puis dire, on les mettait en évidence, c'est-à-dire qu'on voyait les neurones sous le microscope. On voyait où ils se projetaient, d'où ils venaient, les corps cellulaires, donc on identifiait les noyaux, en quelque sorte, de ces qui correspondaient à cet amas de corps cellulaires, on les voyait se projeter dans différentes régions. Et puis les chimistes, bien sûr, se sont mis à travailler là-dessus comme des fous. Comment ça se synthétisait, comment ça se libérait. Puis on a identifié les récepteurs à ces molécules qu'on appelait dopamine, noradrénaline, enfin les amines biogènes, etc., l'acétylcholine. Donc il y avait cette odologie connue, cette anatomie connue. Et on ne savait pas très bien à quoi ils servaient. Pourquoi ? Bien parce que ces neurones, en fait, projetés sur des régions, on appelait ça des neuromodulateurs ou des neurotransmetteurs. Ils étaient là dans ces régions, ils se projetaient, c'était des neurones tout à fait particuliers, et qui permettaient à ces régions de fonctionner en quelque sorte. Mais encore fallait-il connaître le rôle fonctionnel de ces régions. Car la neurophysiologie, si vous voulez, était à tous ses débuts. Les neurosciences démarraient juste. Donc il y a beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas. Alors, je me suis trouvé devant ce dilemme, et en réalité, je puis résumer en un seul seule phrase, si vous voulez, le problème qui se posait à moi, c'était un problème de relation entre une structure qui était la structure vers laquelle ces neurones projetaient et la fonction qui était implémentée, le rôle en quelque sorte, pourquoi cette structure est dans le cerveau et à quoi elle sert. C'était extrêmement simpliste, comme vous pouvez l'imaginer, parce que vous pouvez imaginer vous-même qu'en fait, toutes les structures sont reliées les unes aux autres, par définition. Donc moi, j'isolais en quelque sorte des espèces de canaux, hein, qui étaient le corps cellulaire dopaminergique, qui projetait vers des régions, et j'essayais de voir à quoi correspondait à la fois le rôle de la dopamine, et en enlevant la dopamine, ou en stimulant davantage la dopamine, comment répondait la région, ou en quelque sorte, comment allait répondre l'animal. Donc c'était une discipline nouvelle qui commençait à se développer avec force aux États-Unis, hein, qui s'appelait la neurobiologie du comportement. C'est-à-dire, le comportement étant la somme intégrée de plusieurs fonctions. Il faut plusieurs fonctions pour faire un comportement, vous pouvez l'imaginer. Il faut écouter, il faut voir, il faut entendre, il faut marcher, il faut faire tant de choses. Et ça, c'est le comportement. Et les régions qui, je dis, permettent d'une manière coordonnée la régulation de ces fonctions, si vous voulez, étaient la neurobiologie, l'étude de cela, c'était la neurobiologie des comportements. Donc, j'appelle mon petit laboratoire, tout petit qu'il était, neurobiologie du comportement, avec un axe, donc structure-fonction, axé sur la dopamine. Alors, cela, bien sûr, impliquait une maîtrise de la manipulation de ces neurones dopaminergiques et la maîtrise, en quelque sorte, de modèles animaux, de rats, hein, qui permettaient de mettre en évidence les déficits liés à l'atteinte ou à la surexpression de la dopamine dans la région, c'est-à-dire l'hyperfonctionnement ou l'hypofonctionnement de la région. Vous voyez, en quelque sorte, et c'est en ce sens que je me distinguais de beaucoup de gens à l'époque, les gens travaillaient sur le neurone dopaminergique, je voulais le comprendre, moi je regardais de très près tout ce qui se passait en ce domaine, parce que je l'accaparais en quelque sorte pour moi, hein, je m'en servais, mais moi je m'intéressais plutôt à la région, à la structure, en partant de l'idée que c'était le dérèglement de la région, de ce qu'exprimait la région, qui était en quelque sorte l'un des composants qui permettait l'apparition de tel ou tel symptôme dans une maladie mentale ou dans une maladie neurologique. Voilà. Donc ça a été une longue période. Et comme je passais ma thèse en même temps, n'est-ce pas, la thèse a été passée dans les années 74, je vais aux États-Unis, à tout de suite en suivant. Je vais pas n'importe où aux États-Unis, je vais dans deux endroits. Je vais d'abord à l'UCLA, c'est-à-dire dans l'hôpital de l'Université de Californie à Los Angeles, parce que je faisais toujours un peu de neuropsychiatrie infantile de la main gauche, si je puis dire. Je faisais toujours mes vacations, deux ou trois vacations par semaine. Il faut quand même pas, je ne voulais pas perdre pied, hein, dans la neuropsychiatrie. Je commençais à m'intéresser à ce que l'on appelait l'enfant hyperactif. Hyperactif, hypo-attentionnel, hyperactif, dont on parle beaucoup actuellement. Mais à l'époque, aux États-Unis, c'était le plein boom. Il y avait des livres qui étaient sortis, notamment il y avait Wender aux États-Unis, à l'UCLA, qui avait écrit un livre merveilleux. Et son hypothèse était très curieuse. Il disait, ces enfants hyperactifs, en réalité, c'est un syndrome dopaminergique. C'est un syndrome dopaminergique. Pourquoi un syndrome dopaminergique? Parce que quand vous arriviez dans les années 70, 75, 76, 78 à Los Angeles, vous arriviez à partir de 4h30 de l'après-midi, il faisait nuit. Pourquoi il faisait nuit? Parce que vous aviez des mètres de nuages au-dessus de la ville, et c'était la pollution. Et cette pollution, c'était quoi? Parce que c'était le plomb de l'essence, etc. Vous savez que on ne se rend pas compte, mais c'est des États-Unis qui est parti, ces grandes lois, si vous voulez, qui ont permis d'avoir une essence de type X, d'avoir les pots catalytiques, d'avoir etc., etc. Et en 5 ans, ils ont tout réglé. Il n'y avait plus rien. Et il disait, c'est le plomb qui rentre dans les neurones dopaminergiques et qui les tue. Donc, il y avait une hypothèse dopaminergique. Quand je travaillais là-dessus, je suis allé voir là-bas. D'abord, je suis allé voir pour voir exactement comment ils voyaient les enfants hyperactifs. hein. Et deuxièmement, pour essayer d'étudier ces avancées physiopathologiques qu'il mettait derrière. Parallèlement, j'étais à 30 km de Los Angeles, à Pasadena, au Caltech, hein, et je voulais absolument travailler avec le monsieur qui avait découvert quelque chose de fabuleux dans le système nerveux central dans les années 54-56, qui étaient les neurones du plaisir. On appelait ça, en anglo-saxon, on appelait ça le reward system, le neurone de récompense. C'est-à-dire qu'il y a un système qu'on connaissait très bien à l'époque, un système dans le cerveau, hein, qui, en quelque sorte, s'il est stimulé, ça crée du plaisir, ça crée de la récompense. Les animaux veulent refaire le comportement qui leur permet, je dirais, d'avoir le plaisir qu'ils avaient éprouvé avant. Si vous mettez une électrode de stimulation directement dans ces neurones, dans ces voies nerveuses, l'animal s'auto-stimule. Hein, il appuie sur une pédale pour avoir la stimulation électrique, et ça 20 000 fois à l'heure. Donc, si vous voulez, ça dure des jours et des jours. C'est pratiquement orgiaque. Donc, moi, m'étais intéressé à ça. Pourquoi ? Ben parce que c'est vrai que dans la dépression, un des caractéristiques de la dépression, c'est qu'il y a un switch, en quelque sorte. On a éteint un bouton, il n'y a plus de plaisir du tout. C'est-à-dire que le sujet est en état de déplaisir profond. C'est une mauvaise façon de dire, mais il est, je dirais, anhédonique. Il est incapable de se donner quoi que ce soit qui soit une source de plaisir. Donc, vous voyez, tout ça, c'est encore lié. Là, et on disait que les neurones dopaminergiques régulaient ces neurones, ces régions du reward system. Donc, je suis parti là-bas. Donc, vous voyez, il y avait quand même une cohérence dans tout ça. Un peu dispersé, vous me diriez. Oui, bon, j'étais un peu tout azimut. Et je reviens donc en France. J'ai commencé à avoir quelques petits élèves, là, des petits jeunes qui travaillaient avec moi. On commence à avoir une petite équipe. Donc, je continue pendant un certain temps cette recherche sur la neurobiologie du comportement, et ça dans le cadre d'un laboratoire CNRS que j'avais pu obtenir. Bien. Et j'étais maître de conférence et bientôt d'ailleurs professeur à l'université de sciences, pas de médecine.
Et à ce moment-là, vous vous consacrez principalement à l'étude de ce système des neurones,
oui,
du plaisir.
Oui, ce système. Alors, mais encore une fois, vous allez voir, il y a deux étapes qui vont maintenant arriver, qui vont, en quelque sorte, caractériser l'évolution de ces recherches, mais en augmentant les révolutions conceptuelles de ces recherches, n'est-ce pas ? Et pour arriver à ce que vous avez dit tout à l'heure en introduction, vous avez employé quelque chose de très important, qui est la psychopathologie expérimentale. Car on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Je ne créais pas, en quelque sorte, des animaux où je n'abordais pas la manière qu'un cerveau a à basculer dans la maladie, vous voyez, naturellement. Alors, nous sommes à la fin des années 70, et je décide encore de franchir un autre pas, c'est-à-dire je veux absolument entrer à l'INSERM, créer un laboratoire INSERM. Et pour créer un laboratoire INSERM, il fallait peut-être que je change un peu ma façon de penser, que je fasse quelque chose, je dirais, de plus sexy pour les gens de la recherche médicale, n'est-ce pas ? Mais ce n'était pas difficile, parce que c'est ce que je voulais faire, j'en avais assez de faire ce que je faisais. Entre parenthèses, mais ça, c'est une toute petite parenthèse, je ne vais pas insister là-dessus. Ces années de recherche sur ces neurones ont été, je dirais, une série d'articles à Nature, à Science. Enfin, je veux dire, ça a été des grandes découvertes. Hein. Je me suis quand même fait un nom. Enfin, moi, mes collaborateurs, nous sommes fait un nom, hein, et nous étions en parallèle, en quelque sorte, avec quelqu'un qui était encore peut-être plus grandiose au collège, qui était Jacques Glowinski, qui travaillait, lui, sur la partie biochimique de ce que nous faisions. Nous étions les comportementalistes, eux, ils étaient les biochimistes, comme l'on sait. Bon, tout ça sur ces neurones particuliers. Alors, je me change un peu d'orientation et je vais un peu plus vers la partie finale de ma carrière, qui est la psychopathologie expérimentale, en me posant la question suivante, en me disant, voyons, si vraiment ces neurones sont en quelque sorte atteints ou basculent vers des dérèglements pour aboutir à des syndromes, des maladies, des syndromes dont ont affaire les psychiatres, il faut peut-être deux choses. Bien, soit ce sont des problèmes de génétique, mais je m'étais dit, moi, la génétique, je n'y toucherai pas. Et en plus, j'avais des raisons particulières en y réfléchissant de très près pour penser que la génétique était une part certaine, mais mineure, de tout ce qui m'intéressait, et notamment de la psychiatrie, je me dis, il y a peut-être l'environnement. Ce sont peut-être, en fait, des environnements délétères qui créent qui font basculer, en quelque sorte, par l'intermédiaire du stress et de nombreuses autres choses, ces neurones vers la pathologie. C'est-à-dire qu'ils les dérèglent par une pression soutenue d'un environnement que le sujet ne parvient pas à maîtriser. Et je m'étais dit même qu'au fond, peut-être, là, bien que je sois tout à fait opposé à la psychanalyse, je lui reconnais comme quelques grandes découvertes, à savoir, enfin, quelques alertes importantes. Quand les psychanalystes nous disent beaucoup de choses qui se passent chez l'adulte ont été créées chez l'enfant, n'est-ce pas ? Ou même plus tôt, je m'étais dit, il faut peut-être créer des modèles animaux et être plus conceptuel au niveau 1. Le fait que ces maladies se déroulent sur le long terme, qu'en fait, que lorsqu'elle apparaît, il y a eu avant des dérèglements lents qui se sont instaurés, puis à un moment donné, paf, ça bascule, si je puis dire, dans le symptôme qui alerte le sujet lui-même ou qui alerte son entourage et le psychiatre. Donc il faut créer sur du longitudinal, hein, et il faut créer des situations, en quelque sorte, qui vont permettre le basculement de ces neurones vers la pathologie. Voilà. Et c'est ça que j'ai appelé la psychobiologie du comportement. C'est-à-dire que cette biologie n'était pas externe à quoi ? À une situation psychologique que l'animal, comme l'homme, a à affronter, c'est-à-dire s'ajuster à des environnements délétères. Vous comprenez ?
Oui, oui.
Et cela, l'exemple caractéristique et typique, si vous voulez, c'était par exemple de m'intéresser à un stress maternelle. Stress, vous mettez la mère en gestation dans des états, des situations environnementales difficiles, et de regarder la vie durant, toute la vie, le devenir des petits qui étaient nés de cette mère.
Donc vous prenez vraiment une approche très intégrée ou...
Très intégrée. Voilà, le mot intégré, je vous remercie de le dire, je n'avais pas encore dit, c'est ça. J'étais d'ailleurs considéré, j'avais donc une unité INSERM, j'étais le seul, je dirais en France, le seul en France, déjà à l'époque du CNRS je le fais, j'étais peut-être encore maintenant d'ailleurs, le seul à faire une neuroscience intégrée ou intégrative. Ça, j'étais le seul. Hein. Vous voyez qu'il y avait, il apparaissait là des concepts extrêmement subtils, donc ces concepts qui, à mon avis, est fondamental, à savoir que la maladie n'apparaît pas forcément immédiatement, mais qu'il faut du temps pour une espèce de trace qui se met en route, et à un moment donné, cet individu ou ce cerveau fragile ou fragilisé va basculer. Donc, ce concept qui me paraît important en psychopathologie, qui est un concept de vulnérabilité, derrière ça, il y a un deuxième concept très important, c'est que c'est une évidence que à environnement délétère égal, tous les sujets ne vont pas basculer vers la pathologie. Donc il y a, si je puis dire, des différences interindividuelles, hein, et ces différences interindividuelles reflètent des états cérébraux différents selon les sujets. Alors acquis ou génétique ? Vous voyez ?
Peut-être pour conclure, on peut illustrer cette réflexion avec un exemple de votre ouvrage justement sur la neurobiologie des addictions.
Oui, donc c'est à cette époque-là que je montre, alors là le premier, ça avait été d'ailleurs un article de Science, je montre ce qui était pour moi une évidence depuis des années, c'était sous mes yeux, puis je m'étais dit, mais je suis finalement le seul à montrer ça, puis quand j'étais dans les congrès, quand je racontais mon histoire, je voyais que les gens n'y croyaient pas, c'est-à-dire que quand je prenais un groupe important d'animaux, que je les mettais dans des situations d'auto-administration de drogue, hein, c'est-à-dire qu'ils se servaient eux-mêmes par des canules, etc., appuyant sur... mettant le nez dans un trou pour éteindre une lumière ou appuyer sur une perle, peu importe le manipulant d'homme, des animaux prenaient la drogue, tous prenaient la drogue, mais certains continuaient à la prendre et d'autres se désintéressaient. Donc là, il y avait des différences intellectuelles, ce qui voulait dire que leur cerveau, comparativement, était différent. Puisque la substance, la drogue, entrait dans le cerveau et trouvait, je dirais, des états biochimiques différents pour la réactivité de ces neurones. Donc, manifestement, ça a été le début, et je suis rentré dans le cerveau de ces animaux en comparant les animaux qui, je dirais, étaient résistants et les animaux qui ne l'étaient pas, pour découvrir ce qui était justement la source de la vulnérabilité aux addictions, aux drogues. Vous voyez ? Mais cette différence interindividuelle, ces différences interindividuelles n'étaient pas valables que pour ça. C'était valable pour la réaction à un stress, pour un tas de choses, en fait. Et c'est là où j'ai relié, en réalité, la recherche d'états cérébraux à, je dirais, les notions de vulnérabilité acquise ou inhérente. Vous voyez, donc c'était toute une recherche complète, complexe, qui me faisait regarder le cerveau, je dirais, d'une manière beaucoup plus cohérente, mais en même temps, et c'est là qu'on a eu beaucoup de chance aussi, par les post-docs qui arrivaient dans le laboratoire, etc., j'ai dû m'intéresser, et c'était l'objet de beaucoup de voyages que j'ai fait aux États-Unis, notamment chez Guillemin, vous savez, qui a eu le prix Nobel pour la découverte de la neuroendocrinologie, et notamment des hormones du stress. J'ai admis que le cerveau devenait en quelque sorte vulnérable, changé en quelque sorte de son fonctionnement, en raison des hormones du stress qui avaient des récepteurs dans le cerveau. D'accord ? Donc, par exemple, le stress prénatal, je finis par découvrir, on a été les premiers à découvrir, la mère était en état de stress, sécrétait des hormones du stress, ces hormones du stress traversaient le placenta, d'accord ? Entrée chez le fœtus qui était déjà en état d'immaturité, mais qui avait commencé à avoir des neurones et des récepteurs, changer ces neurones, des animaux naissaient, se développaient, mais avaient cette fragilité, une vulnérabilité, que nous mettions en évidence par la suite. D'accord ?
Brièvement, pour conclure l'émission, quel est pour vous peut-être le ou quels sont les grands défis de la psychopathologie expérimentale aujourd'hui et dans les années qui viennent ?
J'emploie le mot de psychopathologie expérimentale parce que je crois que ce que je fais relève plus du concept, je dirais, bernardien que ce qui se fait majoritairement actuellement dans la recherche en psychiatrie dans le monde. Je suis le seul à utiliser ce terme de psychopathologie expérimentale. J'ai baptisé l'enseignement que j'avais à l'École pratique des hautes études et l'enseignement que j'avais à l'Institut universitaire de France psychopathologie expérimentale pour mettre une étiquette sur ce que je faisais et dire ce que j'étais, mais dans le monde qui va, on appelle ça psychiatrie biologique, ce qui est totalement différent. Je pense qu'actuellement, le concept de recherche intégrative recule. Dans la mesure où d'abord peu de laboratoires ont les compétences, ou s'intéressent même à ça, et parce que la psychiatrie a, je dirais, bénéficié, ou bénéficié entre guillemets, ou je dirais est envahie par ce qui envahit toutes les sciences du vivant, à savoir la biologie moléculaire et la génétique moléculaire. Donc la préoccupation actuellement de rechercher ou de trouver les gènes qui seraient des gènes, on a pensé des gènes de maladie, je n'y ai jamais cru, j'ai passé mon temps à leur dire que ce n'était pas vrai. Et peu à peu, ils se sont rendus compte, la plupart des gens ont décrit des gènes, puis peu à peu, à force d'en décrire et d'allonger la liste, on s'est rendu compte que c'était pas cohérent, qu'il y aurait des gènes de susceptibilité, alors là, je suis absolument d'accord, de fragilité peut-être, de vulnérabilité, c'est possible. Donc, de toute manière, la recherche chez l'homme de ces gènes amène, est en parallèle avec la recherche en laboratoire sur l'animal, sur la souris ou quoi que ce soit, où on bricole en quelque sorte, on crée des animaux ayant des gènes ou des parties de gènes ont été manipulées, enlevées, et on regarde ce qui se passe en pensant que l'on crée, ce faisant, les maladies de l'homme. Il n'y a pas tellement longtemps, j'écoutais sur une radio un jeune chercheur qui venait d'expliquer qu'il avait créé une souris schizophrène. Donc c'est ça bien sûr qui me paraît, je me paraît aberrant, complètement aberrant, parce que d'abord il faut bien là constater qu'on ne sait pas ce que c'est qu'une schizophrénie quand on dit des choses comme ça, mais ensuite ça ne peut pas exister, c'est plus compliqué que ça. Donc comment, pour répondre à votre question, il y a actuellement, j'ai l'impression comme ça, des recherches de plus en plus pertinentes qui se font chez l'homme, je dirais, bon, génétique, c'est d'accord, mais par l'intermédiaire de grands événements, je dirais, planétaires comme la guerre, etc., etc., toutes ces suites de grands événements, après le 11 septembre, maintenant, tout naturellement, les psychiatres regardent, dans le long terme, les conséquences de ces grands événements environnementaux. Et ça, c'est une recherche fabuleuse qui prend de plus en plus de services de laboratoires de par le monde, donc génétique, ça. Il y a l'imagerie, qui est ce qu'elle est, mais qui montre effectivement maintenant, comme montraient les radiologies de l'époque, dans le cerveau, dans certaines conditions pathologiques, des altérations qui sont maintenant relativement bien identifiées. Donc chez l'homme, il y a tout ça. Et en laboratoire, mais il y a une coupure encore là assez radicale. Il y a des chercheurs, et de plus en plus nombreux, qui bricolent en quelque sorte le génome pour essayer d'amener chez l'animal ce que l'on croit être pertinent chez l'homme du point de vue génétique. Et de regarder ce qui se passe. Mais ce qui se passe n'aura jamais rien à voir avec une maladie mentale. Ça, c'est clair.
C'est un peu un aveu d'échec.
Non, c'est une fausse piste. Je pense qu'on, comme toujours, en science, on a des pistes, et puis après on revient en arrière, puis on en prend une autre. Je crois que c'est tout à fait naturel. Moi aussi, j'ai eu des impasses dans ma recherche, et d'autres en auront, et puis c'est comme ça que ça se passe. Alors ici, il y a quand même deux choses. C'est que si vous avez fait attention, je n'ai pas parlé au plan de la psychopathologie ou de la psychiatrie, je n'ai jamais parlé des psychoses. Mais j'ai parlé de comportement, vous voyez, de pathologie du comportement. Donc, dans ma carrière de chercheur, j'ai très vite vu et compris que l'on ne pourrait jamais, pour l'instant du moins, modéliser ou travailler chez l'animal au niveau de ce qu'on peut appeler les psychoses. D'accord ? Mais par contre, tout ce qui est pathologie du comportement chez l'homme me paraissait modélisable chez l'animal. Pourquoi ? Parce que je pense que l'essentiel de ces pathologies résulte d'événements de vie, d'événements environnementaux, d'événements relationnels entre sujets, sociétaux, si vous voulez, qui peuvent être, je dirais, créés en situation chez l'animal et dont on peut voir les conséquences donc, aisément.
Voilà. D'où la pertinence du modèle animal.
Voilà, pour, absolument. Alors là, je retrouve effectivement le meilleur modèle étant bien sûr le primate. Mais comme vous savez, c'est des recherches difficiles, légalement, elles restent d'ailleurs, beaucoup plus lentes. Hein, pour voir les conséquences prénatales jusqu'à la mort de la descendance, n'est-ce pas ? C'est chez le rat 24 mois. Chez le primate, hein, c'est presque la vie de l'expérimentateur, donc ce n'est pas possible.
Merci beaucoup Michel Lemoyle d'avoir accepté de venir nous parler de votre parcours. Et merci à nos auditeurs d'avoir suivi cette émission.